Bonjour à tous. Deuxième partie dans la série d'émissions consacrée à l'avènement de l'idéologie du pouvoir, observée par une psychanalyste, Michèle Bompard-Porte. Nous poursuivons sur le thème de la connaissance des processus collectifs. Rappelez-vous, il y a trois types d'autorité au sein d'un groupe. Revenons très rapidement sur les critères qui distinguent ces trois groupes humains, tels que Michèle Bompard-Porte les définit à la lumière du travail de Freud. D'abord, la horde. Dans ce groupe, le pouvoir est détenu par un seul. Ensuite, le groupe oligarchique. Ici, le pouvoir est détenu par quelques-uns. Et enfin, le groupe fraternel, où le pouvoir est détenu par tous. Gardons bien à l'esprit que ces trois dynamiques humaines sont des schémas et que tout groupe humain emprunte plus ou moins à chacun de ces types de groupes. Et en général, un type prend l'ascendant sur les deux autres. Et nous voici donc arrivés à la deuxième marche de notre progression, de notre récit vers la compréhension de l'idéologie du pouvoir. Nous voici 12 000 ans environ avant notre ère. Les groupes humains passent du stade paléolithique au stade néolithique. Pour la psychanalyste, ils passent du groupe fraternel au groupe oligarchique. Comment expliquer que le passage du paléolithique au néolithique, ce n'est pas une progression ? Du point de vue psychanalytique toujours, en quoi un système collectivement régressé a été nécessaire pour que le chasseur-cueilleur se fasse agriculteur?
Alors, on va préciser encore quelques éléments de ces groupes. Moi, je dis paradigmatiques, on dit comme on veut, hein, c'est des schémas. Il faut surtout toujours bien se rappeler qu'aucun de ces groupes n'existe tel quel. Il y a tout le temps de tout à la fois. Je veux dire, même chez les nazis, vous avez des groupes de résistants qui sont démocratiques. Et puis, il n'y a pas que Hitler, il y a toute une bureaucratie qui fait tourner la machine qui est du type oligarchique. Donc, on voit bien que même si on prend les groupes les plus totalitaires qu'on connaisse, de toute façon, ils ont plusieurs niveaux de fonctionnement. Alors, peut-être on peut encore préciser, j'ai dit tout à l'heure que dans une horde, grosso modo, et je pense que l'image est exacte, hein, dans une horde, tout se passe comme si les membres de la horde étaient quasi comme des nourrissons, mais le chef de la horde aussi. Et ça, c'est très très amusant, c'est très très bien décrit par la Boétie. Le texte de la Boétie est exemplaire à ce sujet et il montre comment les courtisans autour du monarque doivent, et il a une description qui est hilarante, doivent être attentifs au moindre de ces signes et tout de suite se précipiter, c'est-à-dire des comportements qu'on a envers un nourrisson. Alors celle-là, je vous la donne parce qu'elle a quand même un autre intérêt. C'est quand on est devant un chef qui se prend pour un chef, si on pense une seconde qu'en fait, c'est un nourrisson qu'on a devant soi, sauf que c'est un nourrisson déguisé en adulte, souvent, on est un peu plus tranquille et un peu moins pris par la dynamique autoritaire à laquelle, évidemment, on se fait prendre parce que les dynamiques collectives sont beaucoup, beaucoup plus puissantes que les individus et nous manipule, on n'a pas la puissance, si vous voulez, d'un groupe est telle, enfin, toutes les énergies d'un groupe qui fait que ce groupe tient ensemble sont sans commune mesure avec la puissance d'une personne. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, quand les groupes ont l'air dangereux, il faut fuir, il n'y a pas d'autre solution, parce que la puissance d'un collectif est sans commune mesure avec celle d'une personne. Donc nous avons un peu avancé dans notre horde qui est constituée de nourrissons déguisés en adultes, qui sont d'autant plus dangereux qu'ils sont plus nourrissons, parce que je vous signale que les nourrissons, ça n'a pas de processus d'inhibition. Hein. Donc dans une horde, quand ça fonce, quand ça tue, et ça n'a pas d'inhibition du tout. Alors, si on passe au matriarcat, c'est-à-dire au groupe oligarchique, il est légèrement plus élaboré, mais quand même pas si élaboré que ça. Donc, le terme technique qu'on pourrait employer pour dire les modalités des échanges, ce serait le terme signe, comme j'ai dit tout à l'heure, indice pour la horde. Alors, un signe, c'est quelque chose dont on sait qu'il faut le faire, mais on ne sait pas pourquoi. C'était le coup du sésame, ouvre-toi tout à l'heure. Un signe, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui n'est pas motivé, on va dire techniquement. Mais vous voyez à quel point on est pris là-dedans. Parce que les mots de la langue, les mots de la langue, vous savez bien qu'il faut que vous disiez table pour que l'autre comprenne que c'est d'une table que vous parlez. Mais évidemment que vous ne savez pas pourquoi on emploie ce mot. C'est-à-dire que cette dynamique que j'appelle oligarchique matriarcale, elle a quand même un champ d'extension extrêmement grand, et notamment tout le champ du langage, dans la modalité selon laquelle les mots sont construits. D'accord ? Maintenant, si on prend l'âge, l'âge réel des adultes, des déguisés en adultes dans un groupe de type matriarcal, on va dire qu'ils sont un peu plus grands, et c'est plus tout à fait des nourrissons, c'est un peu plus grand, mais vous voyez, ils sont grosso modo dans la pensée magique. Donc, c'est des petits-enfants. C'est-à-dire, dans un groupe matriarcal, on va avoir le droit, du point de vue psychanalytique, à tout ce qu'on appelle, nous, la sexualité infantile, c'est-à-dire sucer des glaces, s'intéresser à son caca, faire du sport, etc. Vous allez me dire que vous faites du sport et que vous n'êtes pas un enfant déguisé dans un adulte. Voir je veux dire, c'est une technique très éprouvée de tous les collectifs relativement autoritaires de diriger les membres du groupe sur le sport. Comme ça, ils ne vont pas sur la sexualité génitale et comme ça, ils sont quand même relativement régressés par rapport à ce qu'un adulte normal est susceptible de faire en termes d'échange avec les autres, c'est-à-dire les aimer, parler avec eux et penser avec eux. Voilà, donc vous voyez, le sport, j'ai le droit de le mettre dans ma dynamique de type matriarcal. Vous allez me dire que nous vivons dans une dynamique essentiellement matriarcale et je vous répondrai que oui. Peut-être si on prend ça au niveau de comment sont les échanges entre les gens. Grosso modo, dans un groupe qui est de type horde, vous voyez bien, c'est des aboiements. Hein. Les échanges, c'est faire peur, c'est le service d'ordre. On comprend tout de suite qu'il faut se garer, etc. Donc, grosso modo, il n'y a presque pas besoin de parole. Le régime de type matriarcal est un petit peu différent parce que tout se passe comme si, justement au niveau du signe, les échanges sont faits pour avoir un effet sur l'autre. C'est-à-dire, on ne va pas vouloir échanger avec un semblable pour réfléchir ensemble, pour partager. On va essayer d'avoir un effet. Alors, dans notre culture, eh ben, c'est toute la politique, les effets d'annonce, comme on dit. Hein. Ou bien, je vous rappelle, je vous ai dit que dans le régime matriarcal, la notion de tenir sa parole n'existe pas, hein, puisque le temps est cyclique. Donc, effet d'annonce, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un parle pour avoir un effet sur l'autre, il n'est pas du tout là pour échanger avec lui. Il veut faire quelque chose, prendre du pouvoir, on va dire, sur l'autre, et pas du tout échanger avec quelqu'un qui est insemblable, avec lequel on n'a évidemment pas de position de pouvoir. Ou bien toute la publicité. Toute notre publicité, c'est des effets d'annonce, c'est des paroles qui sont faites pour agir sur les gens, pour les soumettre, pas comme on soumet dans une horde, à coup réel sur le corps, on va dire, mais à coup de mots. Et des mots qui ne sont pas faits pour un échange, qui sont faits pour attacher les gens, les faire agir comme ceci ou comme cela, bon, les soumettre. Et donc, notre culture, elle est grosso modo de cette nature-là. Et vous voyez bien à quel point, dans notre culture, ce que j'appelle la sexualité infantile est ultra développée, donc j'ai dit le sport, voyeurisme, exhibitionnisme, ben voyez les écrans, voyez comment on traite la nourriture avec cette sorte de distorsion de la capacité de manger en partageant, comme on fait quand on est des compagnons, on dit. Hein. Au lieu de ça, on va fabriquer des nourritures qui sont censées créer du plaisir immédiat. Toutes les sucreries, toutes les graisses, tous ces trucs-là qui fonctionnent en sexualité orale, c'est-à-dire quand même 2 ans, 3 ans, hein, on ramène les gens à ce niveau-là et on les fait fonctionner dans ces registres. Et donc, dans un matriarcat en période d'abondance, les gens ils pensent pas grand-chose, mais ils ont pas mal de plaisir comme ça de sexualité infantile, orale, sadicanale, phallique, voyeurisme exhibitionniste, sadomasochisme, tous ces trucs-là, dit-on en psychanalyse, qui sont parfaitement développés. Donc, il y a un certain nombre de bénéfices. Maintenant, il ne faut pas compter que les gens vont beaucoup penser, ni réfléchir. Ça fait un peu cours de récré, on va dire. Hein, le groupe de type matriarcal en période d'abondance. Si on est en période de vache maigre, c'est autre chose, parce que là, on n'a pas de souci pour tuer. Hein, puisque le temps est réversible, donc mort et naissance s'identifient. C'est la même chose. Par conséquent, s'il y a les moindres difficultés, ben, on va tuer. On n'aura pas de soucis, pas beaucoup plus de soucis pour tuer en groupe matriarcal qu'en groupe de type horde. Hein. Il faut passer dans le troisième système, le système de type démocratique, pour que alors, l'irréversibilité du temps, la reconnaissance qu'on est tous mortels, que donc on est tous impuissants, très peu puissants, fait qu'on peut partager, on va dire, ce qui se partage fondamentalement dans un groupe de type démocratique, c'est précisément l'élaboration du fait qu'on n'est pas dans la toute-puissance, et donc l'élaboration et le partage de ce qui a disparu. Ce qui a disparu, c'est justement de croire qu'il y avait de la toute-puissance quelque part, qu'elle allait nous protéger, qu'elle allait nous nourrir, qu'on allait pouvoir s'y soumettre, etc., etc., ce qui est vrai dans les autres groupes. Dans ce groupe-là, non. Dans ce groupe-là, il faut tenir avec son dos. Et donc, du coup, les autres deviennent des semblables. Du coup, on va essayer d'échanger avec eux ce qu'on peut, pas beaucoup, mal. On n'est pas très doués, nous autres humains. Mais enfin, le mieux qu'on peut, on va s'appliquer. Et puis, on ne va pas s'amuser à les tuer parce qu'on sait bien qu'ils sont mortels. Donc, ce n'est vraiment pas la peine de tuer les gens parce que de toute façon, eh ben, ils vont mourir dans pas si longtemps que ça. Ce n'est pas la peine d'être assassin. On est des adultes psychiques et l'objet par excellence qui représente le fait de devenir adulte psychique, de reconnaître cette irréversibilité du temps et que les autres sont des semblables, c'est vraiment un objet qui a été beaucoup utilisé par les Grecs anciens qui s'appelle un symbolon. Et le symbolon, c'est un petit objet que deux hôtes, enfin celui qui reçoit et celui qui est reçu, cassaient. Et chacun avait un morceau. Et donc ce morceau-là, cassé, vous voyez, on partage quelque chose qui a disparu. Littéralement. On casse et chacun garde une partie. Et après, soit cela, soit dans les générations suivantes, et si les deux le veulent, ça va dépendre du choix de chacun, eh bien ils pourront recombiner les deux morceaux, s'apercevoir que c'était bien le même objet qu'ils ont partagé et donc se reconnaître comme des gens qui pourraient s'entendre de nouveau. Vous voyez, le temps est irréversible. C'est précisément parce que le temps est irréversible qu'on casse et ça reste cassé, qu'on pense à l'avenir et que cet avenir n'est pas le passé et que les générations ultérieures sont réfléchies puisque ce système du symbolum chez les Grecs, ça fonctionne éventuellement pour les enfants des gens qui se sont d'abord reçus. Donc on est tout à fait dans un autre monde. On est dans un monde où il n'y a plus d'acte de pouvoir de quelqu'un à l'endroit de quelqu'un. Et on va dire que le régime fondamental des échanges, hein, on avait dit conviction dans un premier temps pour la horde, ensuite on a dit croyance dans le groupe de type matriarcal, et bien dans le groupe de type démocratique, le régime de l'échange, c'est la confiance. Voilà, on en a dit un peu plus là, sur nos collectifs paradigmatiques.
Pour nous qui nous projetons dans un avenir construit sur le développement de nos richesses, sur l'optimisation de nos avoirs, sur la croissance, le passage du paléolithique au néolithique est un progrès indéniable.
Comment on va dire ? Moi-même, il a fallu que je fasse le travail pour me rendre compte à quel point, on pourrait dire, ce qui est considéré comme classiquement comme des progrès, disons, pour ce qui concerne le bouquin dont on est censé parler, depuis le paléolithique jusqu'à Babylone, les grandes cultures, on dit, à quel point ce prétendu progrès, qui à certains égards est un progrès, effectivement, il y a de certains objets qui sont dans Babylone et qui ne sont pas chez les paléolithiques, est en même temps ce que j'appelle une dégringolade symbolique, en effet. C'est-à-dire, alors il y a un terme que vous avez employé qui convient peut-être de préciser, qui est le terme de régression, qui n'a rien d'une évidence et qui est une spécificité humaine. Les humains sont caractérisés par rapport à tous leurs cousins simiesques par deux traits spécifiques. Primo, ils sont tous beaucoup plus immatures à la naissance que tous les autres singes. Et les singes, ce n'est pas très mature à la naissance non plus, mais ça va quand même relativement vite dans le développement, alors que les humains naissent, certains disent, qu'on est une forme de néoténie, naissent quasi prématurés, avec une incompétence absolue à la survie, pendant fort longtemps, sans les grands. Premier point. Deuxième point, et ça c'est un casse-tête qui n'a pas encore été résolu quant à son étiologie, tous nos cousins simiesques ont un développement continu. ils naissent, ils commencent à grandir, ils prennent de plus en plus d'indépendance, et puis vers 6-7 ans, ils atteignent la maturité sexuelle. Chez les humains, il se passe un truc très très étrange, c'est qu'après un premier développement qui est très spectaculaire, à la fois on part de très très petit, très très incompétent, mais en même temps, regardez ce qu'on fait jusqu'à 5 ans, les langues, la capacité de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une très, très rapide évolution. Et puis, au lieu qu'on devienne adulte, mature sexuel, comme tous nos cousins, eh ben, il y a quelque chose comme un arrêt du développement. On appelle ça le premier âge de raison. Les enfants deviennent tournés vers l'extérieur au lieu d'être tournés du côté des parents et de la nécessité de se faire protéger. Ils vont à l'école, ils s'occupent de leurs copains, ils apprennent la culture dans laquelle ils baignent. Mais ils apprennent la culture dans laquelle ils baignent pendant un grand nombre d'années où leurs compétences sexuelles sont, le moins qu'on puisse dire, assez réduites. Et après, vous avez l'adolescence et la capacité sexuelle qui apparaît. C'est-à-dire, vous avez ce que Freud a appelé, et ça, c'est Freud qui a vraiment mis l'accent là-dessus, qu'il a repéré comme tel et qui a montré à quel point c'était important, vous avez ce qu'on appelle la période de latence. Donc cette période de latence, on pourrait dire latence des compétences sexuelles, par exemple. Mais le truc qui est très, très particulier, c'est que si je vous demande combien vous avez de souvenirs de vos 0 à 5 ans, vous allez probablement me dire que vous n'en avez pas beaucoup. Et ça, c'est vrai pour nous tous. C'est-à-dire, tout se passe comme si cette première période d'âge de raison, qu'on appelle la période de latence, avait la capacité de nous faire oublier, mais c'est un oubli très particulier, notre première enfance. En fait, c'est ce que là, Freud appelle le refoulement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oubli, pour de vrai. C'est-à-dire que dans plein de circonstances, on va les retrouver, les histoires de la première enfance. Elles ne sont pas perdues, elles sont simplement inaccessibles, ben, mettons, au jeu ou au conscient. Hein. Et alors, de ce fait, elles sont très efficientes. Hein. Ça, toute la théorie psychanalytique consiste à dire, pas toute, mais une partie, cette première enfance que vous avez vécue et qui ne vous est plus accessible, qui est devenue inaccessible pendant la période de latence, elle continue d'être vivante en vous. Et elle agit. Et tout ce qu'on va appeler les maladies de type névrotique, psychotique, etc., en fait, c'est l'enfant qui continue de causer et qui continue d'avoir le dessus. Raison pour laquelle je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai déjà dit, si je prends une horde, grosso modo, c'est des nourrissons. Si je prends un matriarcat, grosso modo, c'est 4-5 ans. C'est-à-dire, je vais trop vite, cette manière de développement avec ces strates qui sont, ces strates des années successives qui sont maintenues, qui continuent d'être vivantes, en fait, elles peuvent nous retirer en arrière, n'importe quand, pour une raison X ou Y. Par exemple, si soudain vous allez tomber dans un précipice, tout adulte que vous êtes, vous allez peut-être dire « maman ». Bon, ça c'est une régression soudaine à la demande d'aide. C'est le nourrisson ou l'enfant de je ne sais pas quel âge qui a dit « maman » à ce moment-là. Ou bien, toute autre sorte de circonstance, vous allez vous retrouver régressé, dira Freud, dans tel ou tel moment de votre vie antérieure. Et ceci n'est possible visiblement que chez les humains. Et à cause de ce développement très très particulier, première période avec, je ne l'ai pas traité du tout, mais il faudrait en dire un mot, avec une première efflorescence de la sexualité qu'on dit infantile, puis la période de latence, puis l'arrivée dans l'âge adulte. Et ça, c'est ça qui fait, on va dire, l'appareil psychique des humains, il est très très mal foutu, hein, parce qu'il y a cette susceptibilité de la régression, qui nous fait revenir dans des états très primitifs, par exemple où il n'y a plus d'inhibition, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura plus d'inhibition du meurtre, alors que tous ces gens, ils avaient appris en devenant grands qu'on n'allait pas tuer son voisin. Et puis soudain, ils se retrouvent dans une horde et pof, ils sont régressés et donc aller tuer le voisin ne pose plus de problème, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai un peu explicité cette notion de régression qui est complètement centrale dans toutes les élucidations que fait Freud, à la fois pour les processus psychiques individuels et pour les processus psychiques collectifs. C'est-à-dire, tout le monde a régressé parce que tout le monde croit qu'il y a quelque chose qui est tout-puissant. Croire qu'il y a quelque chose qui est tout-puissant, c'est réaliste quand on a de 0 à 3 ans. Et donc, si vous recroyez qu'il y a quelque chose qui est tout-puissant, en fait, vous réanimez en vous l'ensemble des processus psychiques qui correspondent à cette situation-là. D'accord ? Donc vous êtes repassé à 3 ans, ou à 2 ans, je ne sais pas, ou nourrisson. D'accord ? Si vous êtes un tout petit peu plus grand, il y a des grands, mais vous pouvez en faire quand même un peu, on a dit école maternelle. Hein, vous continuez à avoir besoin, croire que vous avez besoin de la protection des grands, etc. Et donc vous êtes quand même régressé. Et donc le poids où vous n'êtes pas régressé, comment vous êtes, bah oui, je ne suis pas grand-chose, mais enfin, il n'y en a pas qui soit tout puissant pour me protéger. Donc il faut que je me débrouille avec ce que je suis. Et ça, c'est les situations des groupes de type démocratique. Oui, mais c'est rare. La liberté a un coût. Les groupes démocratiques sont très, très instables. Parce que reconnaître qu'on est si impuissant devant les forces de la nature, la débilité du corps, et qu'en plus, c'est difficile d'échanger avec les autres, même si on est de bonne foi, qu'on s'applique et tout, et ben, travailler ça en permanence, effectivement, c'est très fatigant. Donc, les groupes de type démocratique sont prévalents, sont très très fragiles, parce que c'est un énorme travail pour chacun d'entre nous de tenir sur sa position d'adulte. Et donc, c'est toujours, toujours pour nous tous complètement séduisant de passer dans des groupes où on dort, d'une certaine manière. Hein, où on croit qu'il y en a qui vont s'occuper de nous. Moi, si j'étais le gouvernement, enfin, etc. Toutes ces choses qu'on pratique tout le temps, parce que c'est tellement fatigant d'être libre. Un travail de Jacques Covin, qui lui est un archéologue, qui travaille au Moyen-Orient.
Jacques Covin était archéologue, directeur au CNRS et spécialiste du Levant et du Moyen-Orient. On lui doit notamment des ouvrages précieux sur le néolithique, la naissance de l'agriculture et des divinités.
Et qui avait fait paraître un article dans la revue La Recherche, du temps que cette revue avait un peu de tenue, ce qui n'est plus le cas, expliquant que pour l'étonnement de tout le monde, il semblait que le passage au Moyen-Orient, dans cet espace que j'ai déjà dit, là, tout petit espace coincé entre la côte méditerranéenne, à l'heure actuelle Liban-Israël, et puis l'angle où démarre la Turquie, et puis le Tigre et l'Euphrate, dans tout ce tout petit endroit où est apparu le néolithique, eh bien, il semblait que le seul facteur pertinent, bien que comprendre pourquoi être une autre paire de manches, le seul facteur pertinent préalable à l'apparition de l'agriculture, c'était l'invention d'une grande déesse. D'autres facteurs avaient été évoqués, changement climatique, changement de population, tout ça ne s'avère pas. Et le seul facteur qui demeure, c'est, ben voilà, il s'est passé quelque chose chez ces gens, ils ont inventé une grande déesse, qu'ils ont sculptée de mille et une manières, et après quelque temps de présence de cette grande déesse parmi eux, ils se sont mis à cultiver la terre. Pourquoi ? Comment ? Ça reste très énigmatique. Il se trouve que j'avais écrit à l'époque un petit papier parce que ben voilà, c'était visiblement un problème de psychologie collective, entre autres. Et donc, ça méritait qu'on s'en occupe. Mais à l'époque, j'étais quand même un peu débutante. Donc, j'avais un peu travaillé. J'avais rencontré Jacques Covin. Et puis, il m'avait poussée à continuer. Mais à l'époque, ben, moi, il me fallait plus d'instruments de psychologie collective pour pouvoir prétendre, essayer de comprendre quelque chose ou proposer quelque chose d'un peu possible. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un certain temps, j'ai repris le problème. On part de groupes relativement classiques, paléolithiques, chasseurs-cueilleurs, de type démocratique, de manière... Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. C'est pas moi qui invente, en plus. Le pas suivant, c'est une énorme déesse mère et en dessous, des tout petits personnages humains qu'on appelle les orans. Donc, quand je dis régression, je dis visiblement groupe démocratique relativement adulte. Et à un moment, ces gens inventent de devenir des tout petits devant quelque chose de très grand. C'est ça qui me fait dire, au sens strict, littéral, il y a eu régression. collective et invention de cette figure de la toute-puissance.
Voilà, l'apparition de la grande déesse et de son cortège humain. Ainsi s'achève le second volet de notre cycle consacré à Michel Bonparporte et à la psychologie des masses, d'après son ouvrage paru chez L'Harmattan, « Si je t'oublie, ô Babylone » ou « Le meurtre de masse du néolithique au monde mésopotamien ». Chaleureux remerciements à Yves-Marie Bouillon pour avoir organisé et préparé cette émission. Je vous conseille la lecture de son blog à l'adresse psychologuebrest.fr/blog. À bientôt.